Bonjour Monsieur Lallemand. Donc
Bonjour.
je vous remercie d'accepter cet entretien pour SES-ENS et nous allons consacrer en fait cet entretien à votre dernier ouvrage sur le travail, sorti aux éditions Folio Essai en 2007, en janvier 2007, qui
Ça.
effectivement présente en fait beaucoup d'éléments pour le programme de première et terminale, en particulier ES. Donc, alors je vais vous poser une première question relative à l'organisation finalement du livre. Donc, afin de donner justement un fil conducteur à l'analyse de la littérature foisonnante en sociologie, vous avez choisi de diviser votre ouvrage en quatre parties spécifiques: la division, l'individuation, l'intégration et la régulation. Comment justifiez-vous ces choix et quelles sont vos inspirations théoriques?
D'accord. Alors, l'idée d'abord, c'était de produire une organisation, je dirais raisonnée, mais avec une thèse derrière, des connaissances sur le travail, qui échappent aux façons de faire habituelles, qui sont purement thématiques, vous voyez, organisation du travail, relations de travail, etc. Ça, c'était le premier choix. Et avant de justifier peut-être les catégories que j'ai mobilisées, ce que je voudrais dire, c'est que ces catégories, au fond, elles sont le produit d'une démarche inductive, et donc celle de l'expérience d'un chercheur qui s'est, pendant plusieurs années, confronté à des réalités de monde du travail. Par exemple, pour être tout à fait concret, j'ai travaillé il n'y a pas très longtemps sur la façon dont les entreprises reconfiguraient les catégories professionnelles autour des enjeux de classification cadre-non cadre. Et c'est à ce moment-là que je me suis aperçu que les questions de frontières, donc ce que j'ai appelé dans l'ouvrage division, en reprenant une terminologie suggérée par Pierre Bourdieu, étaient centrales pour la construction des réalités des mondes du travail. De la même manière, tout ce qui est lié au choix de gestion de l'emploi, et de manière très générale, aujourd'hui, tout ce qui se discute à propos du contrat de travail, de la précarité, fait que la question de l'intégration par le travail s'est imposée comme presque une évidence dans la réflexion que j'ai essayé de conduire sur les recompositions du travail aujourd'hui. J'ajouterais que ce qui se joue autour de la recomposition de la négociation collective, du rôle de l'entreprise dans la production des règles, etc., a fait aussi de la même manière de la régulation un entrée privilégiée. Alors, même chose pour les questions d'organisation du travail et de production identitaire. Donc, je dirais, au départ, c'est une espèce d'intuition à partir d'un matériau foisonnant. Alors, c'est à partir de ça. L'idée était d'éviter de cloisonner la sociologie du travail dans un domaine extrêmement étroit, comme c'est un peu la tendance depuis plusieurs années en sociologie, avec une spécialisation extrêmement forte en sociologie des âges, sociologie de la famille, etc. Cloisonnement qui vire par exemple aux États-Unis dans comment dire, une espèce de déclinaison en X studies. Tout est propice à women studies, nation studies, etc. Et ce que j'avais vraiment envie de faire, c'est d'arrimer à nouveau extrêmement fortement la sociologie du travail à la sociologie générale. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix de redécouper l'ouvrage à partir de catégories fondatrices, me semble-t-il, du raisonnement sociologique. Alors, ça s'est ancré sur un questionnement de base qui est presque un raisonnement basique. C'est au moment où on parle beaucoup de crise du travail, de fin du travail, etc., même si le débat s'est un peu épuisé et a rebondi au moment de la présidentielle, la question de base, c'était tout simplement: est-ce que le travail fait toujours société? Est-ce que avoir un statut de travailleur, être inséré dans la société par le biais de l'emploi, etc., ça continue à avoir un impact sur la construction des individus, à créer du lien social, etc. Donc ça, c'est vraiment le questionnement basique, si j'ose dire, qui a organisé la réflexion. Alors à partir de là, le second volet de votre question, c'était quels référents finalement théoriques ont été mobilisés pour pouvoir organiser tout ça? Alors, il y en a deux d'inégale importance que j'ai mobilisés pour essayer de, comment dire, de rationaliser sur le plan analytique les différents enjeux, différents processus que j'avais repérés auparavant dans mes enquêtes de terrain. Le premier référent, que j'ai mobilisé dès l'introduction de l'ouvrage, c'est, en fait, c'est pas un sociologue, mais c'est Hegel. Hegel étant, je crois, quelqu'un qui a nourri une partie de la sociologie du travail sans forcément toujours le dire de manière explicite. Mais ce qui m'a intéressé chez Hegel, c'est une intuition qu'on retrouve d'ailleurs largement développée chez Marx, c'est que par le travail, l'individu formate le monde, construit le monde, mais se construit lui-même en même temps, quoi. Donc c'est-à-dire que il y a une façon immédiate de mettre en tension individu et société, pour reprendre une terminologie qui nous est plus classique en sociologie. Donc la façon de construire le monde, c'est aussi une façon de se construire en tant qu'individu et inversement. Et deuxième chose qui m'a intéressé chez Hegel, c'est qu'on trouve chez lui les prémices de toute une série de débats, d'éléments qui organisent la sociologie contemporaine autour de la question de reconnaissance. Enfin, je pense par exemple aux récents travaux de Honneth, qui aujourd'hui commence à être bien connu en France, et qui montre dans quelle mesure l'interaction et la reconnaissance par autrui est un élément central dans la construction des identités contemporaines. Et ça rejoint d'une certaine manière fortement tous les débats actuels sur la question de la souffrance au travail, etc. Alors, la généalogie est beaucoup plus compliquée, puisque déjà chez Saint-Saulieu, on avait un usage de Hegel, on y reviendra peut-être dans la discussion, mais les enjeux d'interaction, de lutte sociale sont présents dans la façon dont Hegel réfléchit sur le travail, et la célèbre dialectique du maître et du valet, de ce point de vue-là, me semblait un schéma tout à fait intéressant à mobiliser. Donc ça, c'est le premier référent intellectuel, je dirais, à la fois majeur, mais en même temps mineur, parce que c'est pas ça qui m'a... j'ai pas repris les catégories hegeliennes fondamentalement, c'est plutôt le questionnement de départ qui m'intéressait. Alors la sémantique, du coup, que j'ai mobilisée, et c'est la deuxième référence majeure de l'ouvrage, c'est une sémantique qui est fondamentalement une sémantique durkheimienne. C'est vrai que la question de la division n'est pas un terme durkheimien, mais en posant la question de la division qui est l'entrée structurante de la première partie de l'ouvrage, j'ai essayé de revenir sur une des intuitions majeures. Et à dessein, je parle d'intuition parce que Durkheim n'a jamais eu le temps, à mon avis, de tirer complètement le fil. Une des intuitions qui est au cœur de l'ouvrage sur les formes élémentaires de la vie religieuse, où dès l'introduction, dès les premières pages, Durkheim montre que les grandes catégories de la connaissance qui structurent notre monde social ne sont pas des formes pures a priori, comme on pouvait le penser dans une certaine philosophie d'inspiration kantienne comme le temps, etc., mais que, bien, y compris le temps, est une construction sociale. Et donc, c'est vraiment dans cet esprit-là que j'essaie de réfléchir sur les catégories d'emploi, de travail, de chômage, d'activité, etc., comme des éléments qui sont des constructions sociales, qui ont une épaisseur historique, qui font le produit d'enjeux et de luttes sociales, etc. C'était vraiment ça la première ambition. Ensuite, ce qui m'a intéressé, c'est de réfléchir encore une fois dans une perspective durkheimienne sur le procès d'individuation qui organise nos sociétés sur très long terme. Alors là, c'est un mystère pour personne, pour ceux qui ont lu Durkheim, notamment de la division du travail social. Un des enjeux fondateurs de la sociologie durkheimienne, c'est de réfléchir sur les transformations de long terme de la façon dont l'individu se construit et s'articule avec un environnement social, un espace sociétal, etc. Et aujourd'hui, on a une sociologie française qui est très active pour justement mettre en évidence la construction de l'individu selon des nouvelles formes, mais à travers la question du travail se pose la question de la production de l'individu, selon une interrogation finalement qui est assez proche de celle que Durkheim a posée initialement. Et puis il y avait deux autres entrées qui, alors là, pour le coup, renvoient explicitement à un vocabulaire durkheimien, qui est celui de l'intégration et qui est celui de la régulation. On trouve ça dans le suicide notamment. Et donc là, ce qui m'a intéressé, c'est d'interroger le rôle du travail comme facteur d'intégration au monde social, avec des choses quasiment évidente, si j'ose dire, c'est les effets, par exemple, pour parler comme Castel, de la désaffiliation, hein, sur les identités des individus, comment se recomposent aujourd'hui les collectifs de travail, comment se recompose la protection sociale et la place du travail dans cette affaire-là, etc. Et dernière chose, c'était la régulation. Je suis extrêmement sensible au fait que le monde du travail, et là je m'inspire en grande partie de Jean-Daniel Reynaud, hein, qui fait de la règle le fait social par excellence, le monde du travail est un monde réglé. C'est un monde où en permanence on produit des règles, on négocie des règles, que ce soit dans le quotidien du travail sur la façon de gérer les pauses, ou dans les grands messes des négociations interprofessionnelles qui organisent, qui mettent en présence plutôt les grandes confédérations syndicales, on n'arrête pas de s'opposer, de négocier, de produire de la règle, etc. Et donc la régulation est vraiment au cœur des questions de travail. Voilà comment j'ai essayé de réfléchir pour construire l'ouvrage.